Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, nous entendrons le nouveau préfet des Alpes de Haute-Provence, Marc Chapuis, est un haut fonctionnaire expérimenté. Une augmentation historique du coût de la vie pour les étudiants dénonce la FAGE. L'organisation nationale chiffre l'augmentation à 7,38%. Des détails dans un instant. À Digne, l'association Jusqu'à la mort accompagner la vie cherche des bénévoles. Reportage d'Odile Frison dans ce magazine. Chris Alessandri, lui, s'est rendu à Saint-Geniez où l'association Arpage œuvre à préserver le patrimoine local. Et puis en fin de magazine, nous entendrons Sorge Chalandon, l'écrivain et journaliste était récemment au Bleuet de Bannon. Nous évoquons avec lui ces deux métiers qui mêlent fiction et réalité à travers l'écriture. Marc Chapuis, nouveau préfet des Alpes de Haute-Provence.
Depuis quelques jours, c'est un haut fonctionnaire expérimenté qui remplace Violaine Desmarais, partie, elle, en terre vauclusienne. Marc Chapuis a passé de longues années au sein de collectivités territoriales, mais aussi au service de l'État en tant que sous-préfet ou comme secrétaire général des affaires régionales en Occitanie, avant de rejoindre Jacqueline Gouraud au ministère de la Cohésion territoriale et des relations avec les collectivités territoriales qu'il a quitté pour rejoindre le 04. Et si Digne est son premier poste en tant que préfet, sa grande connaissance des rouages administratifs entre les collectivités et les services de l'État fait de Marc Chapuis un acteur convaincu d'un dialogue constructif et respectueux entre collectivités et préfectures. Après un dépôt de gerbes au monument aux morts de Digne, le nouveau préfet des Alpes de Haute-Provence a invité les personnalités à un verre de l'amitié dans les jardins de la préfecture. Il a également fait connaissance avec la presse locale et a accordé sa première interview à Fréquence Mistral. Marc Chapuis, vous êtes le nouveau préfet des Alpes de Haute-Provence. Première question, est-ce que vous connaissiez ce département ?
Alors, je connaissais un petit peu les Alpes de Haute-Provence pour avoir séjourné dans le département à plusieurs reprises pendant des périodes de vacances. Je connais, disons le mieux, le sud de la région, le Var, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, parce qu'il se trouve que j'ai beaucoup de familles qui habitent dans ces départements et que j'y ai passé toutes mes vacances quand j'étais enfant et depuis que je suis né. Donc, j'ai une affection particulière pour cette région, pour ses paysages, pour son art de vivre. Et je suis d'autant plus heureux d'arriver dans ce magnifique département.
Alors professionnellement parlant, vous avez aussi une belle expérience aux côtés des collectivités territoriales, aux côtés des ministres, notamment Jacqueline Gouraud et puis Joël Giraud, qu'on connaît fort bien dans le 05. C'est une expérience qui va vous être utile ?
Alors, elle va m'être extrêmement utile comme préfet de département. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec ces personnalités que vous venez de citer, qui sont des grands connaisseurs des territoires, et auprès de qui, durant 5 ans, j'ai eu effectivement à développer des programmes d'action, des programmes d'appui territorialisés, qui s'appellent Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, France Service, le New Deal qui a permis de démultiplier les pylônes en 4G partout sur le territoire. Et ce département était relativement mal couvert. Il y a encore 5 ans, ça s'améliore progressivement. Tout ça, ça me rend effectivement assez informé des sujets d'aménagement du territoire. Et j'ai la satisfaction de voir que dans ce département, mes prédécesseurs ont pris à bras-le-corps ces sujets et ont développé très largement des outils, des structures, justement France Service, des tiers-lieux, Action Cœur de Ville, etc. Donc c'est toute une part d'activité que je connais bien et sur lequel mes expériences en collectivité et à l'État vont être précieuses. Mais au-delà, il y a tout le reste. Il y a la sécurité des des populations. Il y a l'accompagnement des acteurs économiques, et je pense en particulier aux agriculteurs, aux chefs d'entreprise, qui sont aussi dans la feuille de route du représentant de l'État. Et donc, c'est vrai que ces expériences que j'ai pu accumuler au fil des années vont m'être particulièrement utiles pour appréhender tous ces sujets.
On vous a senti très sensible à la chose agricole.
C'est normal. Ce département est un grand département agricole avec une très grande variété de production et aussi avec des vulnérabilités. On l'a vu cet été, notamment avec les épisodes de sécheresse qui, on le sait, se multiplieront sans doute dans les années, les décennies qui viennent et sur lesquelles nous devons, en lien avec la profession agricole, anticiper, trouver des solutions et ça dans un esprit vraiment de dialogue et de concertation qui est un peu ma méthode et sur lequel je souhaite vraiment m'impliquer personnellement.
Votre programme, ces prochains jours ?
Alors, le programme de ces prochains jours, sans grande originalité, ça va être d'aller à la rencontre des principaux acteurs du département. J'ai commencé ce matin avec Madame la maire de Digne-les-Bains. Je vais donc multiplier les rencontres. Je vais aller me présenter aux élus. Je vais aussi aller dans les communes. Et puis, je vais bien sûr aussi faire connaissance avec les différents responsables des administrations de l'État que je suis chargé de piloter et avec qui on va travailler d'arrache-pied dans les années qui viennent pour saisir l'ensemble des sujets, faire avancer ceux qui sont déjà bien lancés et puis en lancer de nouveaux.
Merci Monsieur le Préfet, bienvenue chez vous.
Un grand merci de votre accueil.
L'inflation plombe la rentrée des étudiants.
L'inflation est une réalité aussi pour les futurs cerveaux du pays. Première organisation étudiante en France, la FAGE, a publié son indicateur du coût de la rentrée 2022 qui calcule combien devrait débourser un ou une étudiante pour sa rentrée 2022. Cette année, le coût moyen de la rentrée pour un étudiant s'élèvera à 2527 euros, soit une augmentation historique de 7,38% par rapport à l'année 2021, notamment due à l'inflation. La FAGE attend des mesures fortes des pouvoirs publics afin de mettre fin à la précarité étudiante. Vice-présidente en charge des affaires sociales de la Fédération des associations générales étudiantes, Anne-Laure Siriex, répond aux questions d'Odile Frison.
La FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes, donc qui va regrouper des fédérations de territoires, donc de France métropolitaine et outre-mer, et des fédérations de filières, donc spécifiques à différents types d'études qu'on peut retrouver dans l'enseignement supérieur. Le but principal de notre organisation, c'est la défense des droits des étudiants et l'accompagnement par la mise en place d'actions au quotidien. Donc du coup, pour améliorer la qualité de vie des études de tout le monde au sein de l'enseignement supérieur en France.
Beaucoup d'associations sont reliées à cette fédération.
Oui, on est à peu près à 300 associations qui sont adhérentes à notre structure.
Cette année, c'est un coup de massue, on va dire, par rapport à l'augmentation.
Oui, en effet. Alors du coup, cette année, comme chaque année depuis 20 ans, on présente l'indicateur du coût de la rentrée de la FAGE qui revient à calculer le coût de la vie mensuelle d'un étudiant et les coûts spécifiques à la rentrée. Et donc cette année, là pour 2022, on estime que le coût de la rentrée va s'élever à 2527 euros pour un étudiant en licence non boursier et qui ne vit plus chez ses parents. C'est une augmentation qui est historique, qu'on peut remarquer, avec du coup une augmentation de 7,38%. Effectivement, c'est un gros coup de massue pour la rentrée étudiante.
Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ces associations d'étudiants ?
Alors, on va continuer nos actions quotidiennes pour que les étudiants et les étudiantes puissent avoir accès à une alimentation à moindre coût. Typiquement, on a des agorae, donc qui sont nos épiceries sociales et solidaires qui sont sur des campus partout dans les universités et qui permettent aux étudiants et étudiantes d'acheter des denrées alimentaires entre 10 et 30% du marché et aussi de bénéficier d'un accompagnement social et d'une orientation vers les professionnels du milieu social par les étudiants. Donc c'est un endroit qui est organisé par les pairs finalement et donc qui permet de pouvoir discuter de tous les sujets qu'on souhaite. Et puis, d'un autre côté, on va continuer aussi à avoir du coup notre portage de revendications au niveau du gouvernement, ce qui est le but aussi de la FAGE, et donc notamment de continuer à demander une réforme des aides sociales de façon générale et particulièrement une réforme des bourses sur critères sociaux, de façon à ce qu'il y ait plus d'étudiants qui soient intégrés à ce système-là et que du coup tous les étudiants et toutes les étudiantes puissent avoir un réel pouvoir d'achat, d'autant plus en période d'inflation que la population française peut subir.
Pour revenir aux épiceries sociales et solidaires, ça existe sur chaque campus universitaire?
Alors, pas sur chaque campus, mais on a presque... Alors, attendez, je vais dire une bêtise là, mais on a une trentaine d'agorae qui sont ouvertes en France et toutes sont répertoriées sur une carte directement sur le site internet de la FAGE. Donc, on peut les retrouver là-bas. La FAGE, elle a aussi pour vocation de faire... de la représentation des étudiants, donc c'est-à-dire être élu dans les conseils de l'université et au sein des CROUS notamment, et donc ça donne un poids assez important pour l'accompagnement des étudiants directement, de pouvoir être intégré dans la prise de décision d'acteurs et d'actrices de l'enseignement supérieur, le CROUS notamment sur les questions sociales et l'université sur les questions d'enseignement et d'études.
Me parler du territoire ex-Marseille.
La FAMIS, c'est une fédération du réseau de la FAGE, hein, mais du coup, ce sera la fédération ex-Marseille Interasso, qui représente les associations étudiantes de l'université d'Aix-Marseille.
L'association JALMAV recherche des bénévoles.
C'est une association utile dans des moments particulièrement difficiles et en cette période de rentrée, JALMAV lance un appel à bénévoles. L'association Jusqu'à la mort accompagner la vie tient une permanence au centre des Michel à Digne tous les derniers mardis du mois de 14 à 16 heures et sera présente au forum des associations de la ville de Digne. C'est ce que rappelle la vice-présidente de JALMAV au micro d'Odile Frison en même temps que les aspects essentiels de l'association. Claude Ranchon.
JALMAV, c'est une association Jusqu'à la mort accompagner la vie qui accompagne des personnes malades ou âgées ou en fin de vie, ainsi que leurs familles et leurs proches confrontés à la maladie et au deuil. On fonctionne avec des bénévoles qui sont formés à l'écoute et qui vont écouter, favoriser la parole et essayer par leur présence de soutenir les personnes malades ou leurs familles.
Et on peut dire que vous êtes d'autant plus utile dans ces périodes difficiles et compliquées qu'on a traversées avec cette crise sanitaire.
Oui, ça a été compliqué pour nous puisque de toute façon, on intervient dans plusieurs établissements, dans des EHPAD, au centre de convalescence du Cousson sur les soins palliatifs. Et ça nous était difficile, voire dans certains cas et à certains moments, impossible d'intervenir sur place. Donc la présidente Annie Pegolotti a fait à ce moment-là des écoutes par téléphone. Et un ou deux bénévoles aussi ont pris des appels téléphoniques pour soutenir de cette façon-là. C'est beaucoup plus compliqué qu'en présence, mais ça permettait d'être là quand même.
Alors aujourd'hui, vous avez toujours besoin d'autres bénévoles?
On a toujours besoin de bénévoles, oui. Les besoins sont de plus en plus criants, que ce soit dans les établissements ou parfois chez les gens qui finissent leur vie à domicile. Et puis, il faut du temps pour former un bénévole. Et il y a toute une année de formation à l'écoute, avec toutes les prescriptions pour être auprès des gens, être vraiment à l'écoute et être performant, si l'on peut dire, dans cet accompagnement.
On rappelle qu'il n'y a pas de rapport avec la religion.
C'est une association qui est apolitique et laïque.
On va revenir sur la loi Leonetti, puisque c'est quand même aussi la base de votre association. Il y a eu quelques modifications.
Oui, la loi Leonetti est devenue la loi Leonetti-Claes et a apporté quelques changements en reprécisant l'interdiction de l'acharnement thérapeutique, en conseillant très vivement à tout le monde de désigner une personne de confiance. Ce n'est pas obligatoire, mais quand on rentre dans un hôpital, on nous le demande. Dans la mesure du possible, c'est bien d'avoir quelqu'un. La personne de confiance, ce n'est pas seulement un nom qu'on donne au hasard. C'est quelqu'un avec qui on a pu parler de ce que l'on souhaite si on est gravement malade et si on ne peut plus s'exprimer, et qui pourra donc donner au médecin nos souhaits et notre façon de voir les choses. Et il y a aussi les directives anticipées. C'est un écrit que l'on fait où l'on dit ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas dans l'hypothèse où l'on ne serait plus en mesure de s'exprimer à cause de la maladie ou d'un accident.
On précise aussi que ça n'a rien à voir avec l'euthanasie, l'acceptation de sédation, sédation profonde, qu'est-ce que c'est ?
Voilà, donc ce n'est pas l'euthanasie. L'euthanasie, c'est administrer un produit létal qui va tuer la personne tout de suite. La sédation, c'est une sorte d'anesthésie en quelque sorte. Il y a deux sortes de sédation. La sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est-à-dire qu'en accord avec le médecin, en fonction de l'état de santé dans lequel on est, on va nous administrer un produit qui va nous sédater, donc il n'y aura plus de douleur et la vie partira par le fait que la maladie continue à évoluer et que le corps petit à petit lâche, mais il n'y a plus de souffrance. Et il y a une autre option, c'est la sédation progressive qui permet d'avoir des phases de sédation. Par exemple, quelqu'un qui veut pouvoir voir sa famille ou qui attend quelqu'un qui vient de loin et qui dit, ou qui n'est pas prêt à partir simplement, mais qui souffre trop et qui voudrait pouvoir un peu souffler, entre guillemets, va demander une sédation progressive. Donc avec le médecin, il y aura un accord sur des phases d'endormissement et des phases de réveil. Et quand je dis que la personne souffre trop, il faut tout de même savoir que la loi Léonetti laisse propose, enfin demande même très fermement qu'il y ait un soulagement de la douleur, dans tous les cas.
Et ça, c'est pas automatique ?
Si, c'est automatique, oui. Mais bon, on a souvent dit que la douleur n'était pas soulagée. Aujourd'hui, normalement, la douleur doit être soulagée, même au risque de provoquer quelque chose.
Pour revenir aux personnes qui accompagnent, donc vous accompagnez les personnes en fin de vie, oui. Mais aussi les proches et la famille, ça c'est important de le dire.
Oui, je pense que c'est important aussi parce que souvent les proches et la famille se trouvent dans une situation qui est difficile hein, face à une maladie grave, à la perspective d'un décès, et c'est compliqué, donc les gens ont souvent besoin de s'exprimer. Dans le cadre familial, et c'est pareil pour la personne malade, il est compliqué de parler de la mort qui approche et tout ça. Donc pouvoir parler à quelqu'un d'autre, à une personne qui est neutre en quelque sorte, ça permet de se soulager, d'aller au bout de ce que l'on a à dire. Et le fait de s'exprimer et d'être écouté avec bienveillance et sans jugement permet tout de même d'aider beaucoup les gens.
On a encore beaucoup de progrès à faire en France pour accepter la mort.
Oui.
On n'y est pas encore. Et pour ça, vous avez fait régulièrement des ateliers Naître, Grandir, Vieillir et Mourir qui ont eu un bon succès. C'était souvent à destination des enfants.
C'était à destination des enfants. C'était une exposition qui avait été conçue par des collègues du sud-est de la France, je crois, et qui montrait, mais pour les enfants, ce qui se passe quand on est avec des jeux, quand on grandit, ou l'on commence à faire des projets, par exemple, pour un métier, quand on vieillit, on avait des mannequins déguisés en vieilles personnes avec la canne, et puis, qu'est-ce que la mort ? Où là, le stand de la mort était tenu par notre psychologue, Michel Piquet, et où l'on expliquait aux enfants l'enterrement, la tombe, la mort, avec les mots appropriés à ces âges-là.
Claude Ranchon précise qu'il y a des permanences pour vous rencontrer et en savoir plus.
Oui, il y a des permanences les quatrièmes mardis de chaque mois, de 14 à 16 heures au Centre des Michel. Et donc c'est une occasion pour les gens de venir parler de leurs problématiques par rapport à la maladie, leur propre maladie ou celle de leurs proches. Et c'est une occasion aussi pour nous de rencontrer des personnes et de leur parler de l'association et éventuellement leur proposer de devenir bénévole chez nous, soit d'accompagnement, soit de fonctionnement de l'association.
Alors justement, est-ce que vous avez des bénévoles qui sont venus suite à un accompagnement ?
Oui, on a eu des personnes qui sont venues après, qui ont été intéressées, et soit qui sont venues faire de l'accompagnement, soit qui nous ont rejoints dans le conseil d'administration, par exemple, ou bon, il faut un trésorier dans une association, etc.
On rappelle deux numéros de téléphone donc où on peut avoir des renseignements. Il s'agit d'Annie Pegolotti, qui est présidente de l'association, oui. Toujours. Le 04 92 32 11 01 ou le 06 87 85 67 40. On rappelle aussi que vous serez présent au Forum des associations à Digne-les-Bains.
Arpage, une belle association qui prend de la hauteur.
C'est sur le relief qui culmine la ville de Sisteron que se trouve le village de Saint-Geniès de Dromont, à plus de 1600 mètres d'altitude. Le site est pourvu d'un magnifique patrimoine architectural et de lieux extraordinaires. En 2014, une poignée de bénévoles décide de créer l'association de rénovation du patrimoine génésien, l'Arpage. avec pour but de rénover, entretenir, retrouver, reconstruire et faire revivre le patrimoine culturel, qu'il s'agisse de monuments religieux ou profanes. Catherine et Alain Bloch, respectivement trésorière et président de l'association, répondent aux questions de Chris Alessandri, qui leur a rendu visite.
Catherine et Alain Bloch, nous sommes à Saint-Geniès pour nous parler un tout petit peu de l'association Arpage, une association que vous avez créée. Comment la présenter? De quelle façon?
En 2014, une personne du village avait comme idée de faire remettre un clocheton à la chapelle de Dromont et m'a demandé de monter une association dans ce but. On a monté l'association et ensuite on a demandé aux architectes des bâtiments de France la possibilité de mettre un clocheton et ils nous ont répondu, les bâtiments de France l'ont pris en 1993 dans cet état, elle restera dans cet état. Donc pas de clocheton. C'est un peu décevant, mais enfin...
Bah, au départ, c'était donc une association à la demande d'une personne pour ce fameux clocheton. Et puis finalement, on s'est retrouvés à plusieurs parce que l'amour du pays, des vieilles pierres, de tout le patrimoine qu'on a ici, qu'il soit d'ailleurs du bâti comme du patrimoine immatériel, parce qu'on a quand même des figures du pays, on a des histoires, on a beaucoup de choses qui méritent d'être connues.
Est-ce qu'il y avait une demande de la part des personnes qui visitent, des gens qui viennent? Est-ce qu'on demandait justement à avoir des renseignements?
Oui, il y avait beaucoup de monde qui venait à la chapelle de Dromont et à Pierre-Écrite, et les gens s'arrêtant ici posaient des questions, demandaient. Voilà, c'était surtout par rapport à la visite de Dromont.
Vous avez commencé par quoi? Quelle a été votre première, disons, mission avec l'association Arpage?
La première mission, ça a été d'aider la municipalité dans le montage de dossiers pour le lavoir qui était en piteux état. Et avec Madame Barbero, qui était maire à l'époque, on a monté un dossier, on a vu avec les architectes des bâtiments de France. Et lorsque la mairie a démissionné, donc une deuxième mairie a pu monter le projet complètement et a pu réaliser ce projet de réfection du lavoir. Deuxième étape, ça a été donc pour Dromont, gérer les visites de Dromont, parce que Dromont est une chapelle avec une crypte du 11e siècle et qui est énormément connue et énormément recherchée pour plein de raisons.
Pour définir quand même l'identité de Saint-Geniès, tout ce qui gravite autour, le côté bien sûr culturel, le côté historique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui vous a séduit à Saint-Geniès?
J'ai toujours connu Saint-Geniès, donc j'ai des souvenirs d'enfance depuis la plus tendre enfance, je pourrais dire. Et puis, il fallait que ce patrimoine revive, donc il fallait aussi qu'on puisse le faire partager à d'autres. On n'en est pas les détenteurs, on en est simplement des passants, des passeurs, passeurs de mémoire, passeurs d'histoire. Et c'était important que tout ça puisse perdurer pour les années futures.
Moi, Saint-Geniès, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est la météo. La météo de Saint-Geniès avec les nuits fraîches, avec un climat particulier, avec ce bleu de Provence, dans un ciel magnifique, voilà. C'est mon intérêt, parce que moi je ne suis pas du tout d'ici à l'origine, je suis de Bordeaux. Mais je me suis retiré là parce que c'est vraiment un climat et un pays qui me plaît.
Quelles sont les traces de l'histoire que l'on retrouve ici? Les témoins d'un temps passé que vous avez retrouvé, que vous avez envie de mettre en valeur?
Alors on a retrouvé mais il a été retrouvé lors notamment de travaux d'adduction d'eau, des restes de tégula romaine, des restes de sépultures romaines, des restes de toute une vie qui s'est construite après pierre écrite, autour de cette fameuse pierre écrite par Dardanus et de toute la légende qui peut s'en suivre.
Il y a donc des traces gallo-romaines?
Ah oui, il y a des traces gallo-romaines. Il y a tous les écrits de Dardanus et effectivement la sépulture que l'on a trouvée en 1998 qui manifestement rappelle que des Romains ont séjourné à Saint-Geniès, en particulier à Chars d'Avon où il y avait une garnison romaine.
On parlait de Chars d'Avon. Chars d'Avon, ce sont, je crois, la traduction, l'étymologie, les gonds, quelque chose comme ça, qui donne sur une porte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Les gonds, oui, ce sont les gonds de la porte. Eh bien, on le voit très bien d'un point de vue géographique. Quand on voit cette percée dans la montagne, il ne fallait pas grand-chose pour la bloquer. Et donc, pour isoler tout le fond de la vallée du reste du monde, entre guillemets. Et à l'autre bout, l'autre verrou, après Dromont, qui dominait toute la vallée du Vençon. Et effectivement, la garnison romaine était bien tranquille, bien ici, bien installée. Depuis les hauteurs, pouvait repérer tout ce qui pouvait arriver comme ennemi.
Et puis, bien sûr, pierre écrite.
L'ouverture de pierre écrite, qui est faite par Dardanus, permettait donc cette rentrée dans la vallée et permettait, avec cette garnison romaine, de protéger toute la vallée. Et c'est là que Dardanus aurait créé une ville qui s'appelait la Cité des Dieux.
Arpage, c'est toute une association, c'est tout un, j'allais dire presque une famille, hein, vous êtes tous bénévoles. Qu'est-ce qui vous anime en ce moment? Quels sont les projets? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous mettez en place en ce moment.
Mais pour l'instant, nous travaillons sur les journées du patrimoine qui vont avoir lieu les 17 et 18 septembre, pour laquelle nous avons un programme assez intéressant, cette année encore. Nous avons en projet de refaire à nouveau, au printemps prochain, le printemps des arts, puisqu'on en avait décidé que maintenant que ça serait en biennale, mai-juin 2023, la prochaine édition. Voilà les deux grands projets pérennes, en plus des visites de l'organisation de tout ce qui se passe à Dromont. Pour les journées du patrimoine, nous allons ouvrir la chapelle et la crypte de Dromont les deux jours au public. Ça sera gratuit. Le samedi après-midi, il y aura un concert de chant occitan que va donner Valéria Pastourel, suivi d'une conférence de Madame Myriam Philibert sur Saint-Geniès, pierre écrite et toutes les spéculations qu'il y a pu avoir par rapport à ça. Le dimanche, nous aurons une conférence au village, cette fois-ci, de Monsieur Bernard Emery sur la légende de Théopolis, suivi d'un verre de l'amitié offert par Arpage et d'un repas partagé tiré du sac. En ce qui concerne l'ouverture de l'église, puisqu'effectivement, elle a été vidée pour faire les travaux. Il n'y a plus grand-chose à voir, mais on pourra éventuellement expliquer aux gens et leur montrer ce qu'il y a. D'autant que le dimanche après-midi, à 15h30, il y aura un autre concert de Valéria Pastourel. Une église qui remonte au XVIIe siècle. Il y aura également, le dimanche à 17h, une messe dans cette église.
Le point important aussi de l'association, c'est la gestion qui nous a été donnée de la chapelle de Dromont, des visites de la crypte, du tour de la chapelle. C'est un point important parce que c'est un moyen de financer notre association, puisque nous payons un salarié pendant les mois d'été, de manière à ouvrir la chapelle continuellement. La crypte de Dromont est une crypte du 9e ou 11e siècle à peu près. C'est une crypte très connue dans le monde parce que il y a plein d'énergie pour ceux qui sont proches des énergies qui s'y passent. Et puis il y a tout un vécu, des histoires sur la chapelle de Dromont avec sa pierre de fécondité, avec la Vierge qui est souvent adorée là-bas. Et il y a même un pèlerinage tous les ans à la chapelle de Dromont, le deuxième dimanche de juillet. Je disais que la chapelle de Dromont est financée par les 2 euros qu'on demande aux visiteurs, mais aussi la mairie nous subventionne pour l'équivalent d'un mois de charge de notre salarié.
Et puis, ici même, donc à Saint-Geniès, les arts s'exposent et s'expriment.
Ah ben oui, tout à fait. Nous avons eu 2 éditions du Printemps des Arts à Saint-Geniès. 2 éditions qui ont très bien marché et qui nous ont confortés dans cette idée de continuer, mais sous forme de biennale, donc, parce que c'est quand même un très gros investissement. Il faut trouver les artistes. Les lieux, il n'y a pas de problème, puisque la population nous prête les locaux. Donc, ça nous permet là aussi de faire partager tout le patrimoine des maisons individuelles, des remises, des granges, des caves, de tout ce qu'il peut y avoir dans le village où les artistes viennent s'exposer.
Oui, dans les événements, il ne faut pas oublier un événement nouveau, c'est le départ du rallye de Monte-Carlo, 21 ou 22 janvier. Donc il y a un départ à 11h et un départ à 15h. Et l'association Arpage fait une animation ce jour-là en préparant un repas, en préparant des boissons, en s'occupant de la gestion des personnes qui vont se promener dans le village.
Et dans le milieu automobile, on dit que la spéciale Saint-Geniès, c'est le juge de paix du rallye de Monte-Carlo, donc c'est pas rien. Vous avez également un site à disposition qui est très bien orchestré. On peut avoir l'adresse, on peut se renseigner à tout instant.
Voilà, ben oui, ben à tout instant, vous pouvez aller voir ce que nous faisons sur le site Arpage, tout en minuscule, A-R-P-A-G-E, 0420.jimdo.com. Nous avons également une page Facebook, Arpage Patrimoine Saint-Geniès de Dromont. Et vous pouvez nous joindre par mail arpage04200@gmail.com pour tout renseignement complémentaire.
Rencontre avec Sorge Chalandon. User de la réalité et de la fiction.
Journaliste réputé et écrivain plusieurs fois primé, Sorge Chalandon se sert de la réalité comme de la fiction pour nourrir une œuvre singulière. Depuis 50 ans, à Libération puis au Canard enchaîné, il a couvert des conflits armés et des procès qu'il a relatés dans ses articles et dossiers. Mais là où s'arrêtent les missions d'information du journaliste, s'ouvre celle du romancier. Plusieurs fois plébiscité, ses livres plongent le lecteur dans une fiction imaginée par l'auteur et que l'œil du journaliste alimente sans retenue. passé au crible de ses convictions humanistes et vindicatives, les tensions communautaires du Liban, les combats de l'IRA en Irlande ou encore le nazisme et la collaboration, tout cela prend une tournure littéraire passionnante. Son dernier livre, « Enfant de salaud » sur l'attitude contrastée de son propre père pendant la guerre, tour à tour résistant ou collabo, reste une étude sensible de l'âme humaine. Il a porté plusieurs fois des uniformes, souligne-t-il, 5 fois en tout et dans des camps différents, mais je ne l'ai jamais vu avec celui de père. Le cri d'un intellectuel resté enfant et qui a eu accès au dossier du procès Barbie à Lyon où a sévi son père. Journaliste, romancier, mais aussi héritier du passé sombre d'un géniteur complexe, il use de l'un comme de l'autre pour exprimer ses sentiments et ses luttes. Au racisme ou au fascisme, il oppose la connaissance, l'intelligence, mais aussi le combat, même s'il est violent. S'opposer aux négationnistes ne suffit pas, il faut les faire taire, quitte à les éliminer, dit-il, sans hésitation. La tâche est rude, à l'heure où certains affirment que Pétain a sauvé des juifs et où pullulent des fake news abjectes. De tout cela, Sorge Chalandon s'est confié récemment au Bleuet, à Bannon, accompagné de l'écrivain flamand Stefan Hertmans, lui aussi marqué dans sa vie par l'empreinte de la collaboration. Je vous propose d'écouter un journaliste romancier dont la voix porte. Sorge Chalandon, vous êtes journaliste et également romancier. Comment est-ce que ça s'articule et comment est-ce qu'on harmonise le travail entre la fiction et la réalité ?
Alors moi, j'ai trouvé un truc en fait dont je me sers depuis 30 ans maintenant. Je suis journaliste depuis 50 ans, mais depuis 30 ans. En fait, je travaille sur des petits carnets à spirale. C'est assez facile. Sur les pages de droite, c'est tout ce qui concerne le journal, le reportage par exemple. Et sur les pages de gauche, c'est tout ce que je ressens. Donc par exemple, je me trouve dans un... J'étais reporter de guerre pendant plus de 20 ans. Je suis sur un terrain de guerre. Sur les pages de droite, c'est les obus qui tombent, c'est les gens qui hurlent, etc. Sur les pages de gauche, c'est ma peur, c'est ma colère, ça peut être ma haine. C'est ce que je ressens, c'est ce que je vis. Et en fait, les romans, c'est la somme de mes pages de gauche. Et journaliste, c'est la somme de mes pages de droite. Et moi, ce qui était important pour moi, c'est que journaliste, pour moi, un reporter, un journaliste, il ne doit pas parler de lui. Je sais qu'il y en a qui le font, mais j'aime pas ça du tout. Donc, il ne doit pas parler de lui. Il doit parler de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Il doit parler peut-être de ce qu'il connaît ou de ce qu'il sait, mais pas de lui, en tout cas. Et le problème que j'ai eu pendant tous ces reportages de guerre, notamment, mais pour d'autres reportages aussi, c'est comment j'explique ce que j'ai vécu, ce que j'ai senti, ce que j'ai ressenti. Et pour ça, la fiction, pour moi, c'est formidable. J'ai assisté au massacre de Sabra et Shatila, au sud du Liban, 1982, lorsque les milices chrétiennes Kataeb ont assassiné des Palestiniens, femmes, vieillards et enfants. Sur les pages de droite, j'avais tout le reportage pour Libération. Plusieurs pages dans Libération, le lendemain, sur les massacres de Sabra et Shatila. Sur les pages de gauche, sans le savoir encore, j'avais mis au point ce qui deviendrait mon livre, Le Quatrième Mur, où là, je suis metteur en scène de théâtre. Je retourne à Sabra et Shatila en 82, avant l'attaque, avant le massacre. Et j'ai l'idée, c'est le roman, j'ai l'idée de monter Antigone de Jean Anouilh en prenant un combattant dans chaque camp pour en faire des acteurs. Je vous rassure, je ne vais pas y arriver parce que c'est une idée folle. Mais en tout cas, j'ai cette idée-là pour en faire un roman. Et ça, c'est toutes mes pages de gauche. Et je retourne dans Sabra et Shatila martyrisé en tant que metteur en scène de théâtre. Je m'appelle Georges, qui est mon deuxième prénom, en tant que metteur en scène de théâtre, et je peux revivre et revisiter tout ce que j'ai vécu au moment où j'y étais. Par exemple, j'ai travaillé beaucoup sur la guerre d'Irlande. Et l'un de mes meilleurs amis irlandais, je pense que c'était mon frère d'Irlande, en fait. Un des hommes que j'ai le plus aimé et qui m'a raconté le pays, qui m'a raconté, c'était un combattant républicain irlandais, un membre de l'armée républicaine irlandaise, de l'IRA. Et pendant 20 ans, on était extrêmement proches. C'était le parrain de ma fille. C'était quelqu'un c'était mon frère d'Irlande, effectivement. Au bout de 20 ans, on a appris que c'était un traître. Donc, traître qui a été exécuté ensuite. Et donc, tout ce qui concernait l'Irlande, le journal Libération, c'est sur mes pages de droite. Et comment je peux parler d'un traître? Je peux pas de mon traître qui est si proche de moi, si violemment en amitié avec moi. Et j'en fais un roman. Et je prends toutes mes pages de gauche. Et là, je me souviens, c'est-à-dire que quand mon traître, je ne sais pas que c'était un traître, mais quand cet homme-là, Dennis Donaldson, remonte dans l'obscurité, le col de ma veste pour que j'aie froid, pour pas que je n'aie froid, qui fait ce geste-là? Est-ce que c'est le traître? Ou est-ce que c'est l'ami? Qui est l'homme qui fait ça à ce moment-là? Toutes ces choses-là qui ne peuvent pas être dans un journal, pour moi, c'est dans un roman.
Vous avez dit à propos du quatrième mur, justement, Sabra et Shatila, d'un côté j'écris et puis de l'autre je pleure, c'est ça ?
Alors, j'écris, et ça c'est pour le journal, je pleure, et ça c'est pour moi. Et le problème, c'est que ces larmes, j'en fais quoi? J'en fais quoi de mes larmes? Moi, quand je rentre de Sabra-Chatila, ou quand je rentre d'autres massacres auxquels j'ai assisté, quand je rentre, et ça, ceux qui ont connu la guerre, ou ceux qui ont connu la mort, le savent, on sent la mort. On pue la charogne. C'est quelque chose qui, même si on se douche, même si on prend les habits, même si on les lave, même s'il faut la chambre d'hôtel, il faut l'ouvrir en grand, il faut que l'air rentre, il faut faire des courants d'air sans cesse, mais on pue la mort. Ces larmes-là, cette mort-là, cette puanteur de mort que j'ai rapportée avec moi, j'en fais quoi? Ben, j'en fais un roman.
Aujourd'hui, vous êtes à la fin de votre activité professionnelle, peut-être même que c'est déjà fait. Comment vous voyez l'avenir?
Alors non, après 34 ans de libération, je suis au Canard Enchaîné depuis 12 ans et j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter pour l'instant. Le Canard Enchaîné, je crois que c'est le seul journal en France où c'est difficile d'y rentrer, mais encore plus difficile de sortir. C'est-à-dire que si on sort du Canard, on peut être considéré comme un traître. C'est sympathiquement dit. Comment je vois la suite? Eh ben, je pense que jusqu'à ce que j'ai 70 ans, je me vois encore quelques années un petit peu. Je veux comprendre. Je veux pouvoir lire, je veux pouvoir écrire, je veux pouvoir... C'est-à-dire que dès que je sentirai, si un jour je sens que je n'ai plus la force, ou que je n'ai plus simplement l'envie, ou que je n'ai plus la foi, à ce moment-là, il faut arrêter, autrement tu voles ton lecteur et tu lui mens. En revanche, pour les romans, j'espère continuer encore un petit peu, tant que je peux, et tant que j'aurai la force, la foi et l'envie.
Vous avez insisté ici à Bannon, au Bleuet, sur le fait de rester éveillé par rapport à ce qui grimpe tout doucement, de manière très discrète, très timide, mais toujours très prégnante, tout simplement le nazisme, le fascisme.
Alors non seulement éveillé, mais je trouve que « indignez-vous », c'est un joli mot, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est « battez-vous », évidemment. Je veux dire, l'indignation fait rire un fasciste, un vrai fasciste. L'indignation fait rire un homme d'extrême droite. Se battre, lutter contre lui, employer les mêmes armes que lui, parce qu'on est à bout d'arguments. Nous sommes en 2022, on ne va pas expliquer que l'antisémitisme, c'est mal. On ne va pas redire ça quand même, ce n'est pas possible. Donc dire « oh là là, c'est mal d'être antisémite, mais ça les fait marrer ». Donc non, il y a un moment donné, il faut que la peur change de camp. Moi, j'ai envie de voir la peur dans leurs yeux, parce que la peur dans les nôtres, elle a assez duré.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci à vous Olivier pour la régie et à la semaine prochaine.